imposerait un adversaire. Donc, quand il s'agit de la ville verte, on peut dire, en première analyse, qu'il ne s'agit pas quelque chose de très nouveau. Les villes sont depuis longtemps verdies par des allées d'arbres, par des parcs, par des jardins publics, par des jardins privés, donc ce n'est pas une grande nouveauté. Alors, je crois qu'on peut faire un petit historique de la ville en disant que la ville romaine était une ville qui était justement minérale, en opposition à la campagne, et on avait aussi une ville qui était particulièrement assainie, qui était sa caractéristique. Donc elle était minérale parce qu'elle était aussi exempte de boue, et aussi elle était peuplée de fontaines et, chose absolument extraordinaire, aussi des systèmes d'évacuation des déchets, des égouts. Donc, ce qui, il faut le dire, il a fallu attendre Haussmann pour retrouver la qualité d'hygiène de la ville romaine. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est assez important, et le problème de la nature apparaissait effectivement un élément secondaire par rapport à des problèmes qui étaient l'adduction en eau potable et l'évacuation des déchets humains et autres. Donc, on a aujourd'hui, évidemment, on passe au-dessus de ces nécessités et on présente la ville verte comme une grande invention. Alors, il faut dire que l'idée de mettre de la nature, ça arrive, on le sait, au moment Jean-Jacques Rousseau qui fait l'apologie de la nature, qui a une vision, on peut dire, anti-urbaine. La ville, elle est chargée des maux de la corruption, et on a une nature qui s'apparente plus au paradis terrestre. Bon, tout ça, évidemment, c'est du mythe, mais qui est au fond, je crois, au fond de toutes ces oppositions entre ville et campagne, entre nature et culture aussi. C'est le fondement même des activités humaines. Donc, comme je vous disais, il n'y a rien de nouveau en cela, en disant il faut verdir la ville, parce que ça a été des mouvements importants. Regardez par exemple à Toulouse, on a eu les plans Mondrian avec le jardin des plantes, le Grand Rond, le jardin royal, les allées Jules Guesse et les allées François Verdier, encore les allées Frédéric Mistral. Tout n'a pas été réalisé, mais on avait, on peut dire, hors de la ville, on peut dire de l'enceinte médiévale, une extension de ville verte, c'est bien le cas, avec à la fois des enlignements réguliers, et puis aussi avec le jardin des plantes, certains éléments qui étaient tirés un peu du jardin anglais, c'est-à-dire qu'une sorte de métaphore de la nature. Alors, il ne faut pas oublier Versailles et ce changement fondamental dans la manière dont le pouvoir qui était au centre des villes se désaxait, et pour être on peut dire dans la nature, dans la campagne, à partir d'un relais de chasse assez modeste, on a un immense complexe à la fois bâti, architectural et aussi planté. Alors évidemment, il ne s'agit pas d'une métaphore de la nature, mais on a un grand plan avec une sorte de projection de l'architecture, une projection de l'architecture sur la nature. C'est tout le talent de Le Nôtre de transformer le paysage dans une vaste architecture avec des niveaux, des escaliers, des allées et bien sûr le grand canal, les fontaines, tout ça bien sûr étant une sorte de métaphore de la nature des rivières et des fleuves et aussi des cascades, mais tout cela étant, on peut dire, humanisé, dessiné, géométrisé. Donc on est sur une transformation de la nature, mais on peut dire que cette vision qui mélange nature et architecture bâtie et architecture naturelle va avoir une grande influence dans le monde, et cette vision tout à fait étonnante de Louis XIV va se reproduire dans d'autres palais dans le monde entier. Ce sera le modèle, mais on va aussi avoir des villes sur ce modèle-là, dont les plus connues sont Washington, Londres, Saint-Pétersbourg. En fait, on a cette association entre les végétaux, on peut dire, et l'architecture dans une sorte de continuité, ce qui était évidemment assez peu le cas avant, où les villes étaient essentiellement minérales. Alors elles étaient minérales pour des raisons qui étaient des raisons assez pratiques, parce qu'aujourd'hui, il est de bon ton de mépriser les villes minérales et pour revenir à une sorte de paradis perdu qui serait un jardin d'Éden. Mais on oublie de dire aussi que avec une population dense, donc des activités, les sols minéraux ont l'avantage de protéger de la boue quand il pleut, et que on n'est pas dans une image de promotion immobilière où il fait soleil, les gens se promènent main dans la main, ils sont jeunes, beaux, et que la réalité, elle est un peu plus compliquée. Donc, si on se réfère à ce qu'était encore la France, par exemple la France des campagnes, où quand les routes n'étaient pas goudronnées, on avait des routes empierrées, où on avait aussi des routes qui étaient embourbées, les cours de ferme également, et on vivait d'une manière qui était quand même, on peut dire, totalement différente de la nôtre, avec des sabots, des bottes et la fange qui était partout. Alors, on a une tendance aujourd'hui à dire qu'il faut débétoniser, horrible mot. En fait, c'est surtout du bitume qu'il faudrait enlever. On va les enlever dans les cours des écoles. Bon, c'est pas aussi simple que cela, parce que quand il pleut, bah, les enfants vont être dans la boue, et les sols durs ont quand même un certain avantage. Donc, on évite sur des excès, et on parle par exemple à Toulouse de végétaliser la place du Capitole. Alors certains disent qu'elle a été plantée d'arbres, qu'il y a des gens qui s'en souviennent, et bien sûr tout ça est une invention. La place du Capitole a été conçue pour être une place minérale, c'était une place royale, avec évidemment après la Révolution, on n'a jamais pu mettre la statue d'un roi au centre de la place, mais elle a été prévue minérale, et il n'y a jamais eu effectivement d'arbres. Alors aujourd'hui, la végétalisation, elle n'apparaît plus comme un goût entre ce que je vous disais, entre ces deux visions qui sont une, la ville minérale, et l'autre qui est la ville végétale. Et là, ce sont, au-delà des avantages et inconvénients des deux, ce sont deux conceptions. Alors, je pense que aujourd'hui, tout le monde a envie d'avoir effectivement des inclusions de parcs, de jardins, et ça donne un agrément certain, parce que on peut dire la vision que nous avons de notre vie ne peut pas être uniquement résumée à des surfaces minérales. Donc On va marquer une petite pause musicale et on va revenir sur ce sujet qui est un sujet important aujourd'hui, qui est justement la végétalisation de nos villes. Et je vous donnerai mon avis par rapport à ce qui me paraît être des faux arguments et surtout certains inconvénients que l'on pourrait trouver. La ville verte aujourd'hui, c'est un argument employé par les écologistes qui la proposent dans la modification de nos villes existantes. On peut dire aussi que le mouvement moderne, ce n'est pas très nouveau. Le mouvement moderne, les villes vertes, au début du XXe siècle, Garden Cities of Tomorrow, ça veut dire les villes jardins de demain. C'est au début du XXe siècle et c'est la planification anglaise que l'on sait être bien sûr beaucoup plus verte que nos traditions romaines et aussi nos villes qui sont effectivement moins vertes et dans un autre rapport à la végétation. Alors, l'argument aujourd'hui qui est donné pour les villes vertes n'est pas tellement un argument esthétique, un argument de plaisir, mais plus une argumentation utilitaire avec surtout le problème du réchauffement climatique et la verdure devant être l'antidote, et c'est ce qui est argumenté par les écologistes. Alors je voudrais quand même revenir sur cela. Alors il n'est pas question de remettre en cause ce désir de végétation, comme je vous disais, ou de plantes et d'arbres, qui est apparemment, je ne sais pas si on peut parler de légitime, mais en tout cas qui est dans l'esprit de nos époques, et cela depuis assez longtemps, me semble-t-il. Par contre, l'argument utilitaire me paraît un peu spécieux. En effet, on prétend que le fait de mettre les arbres, ça va faire baisser la température d'une manière très importante dans les villes, parce que on a des arguments comme l'ombre va faire baisser de 10 à 15 degrés la température au sol. Alors là, il faut rappeler certains principes. Alors ça, c'était par exemple écrit dans le journal Libération, il y a un numéro de fin d'année qui parle de Libération Solution, et apparaît donc les propositions pour Paris, où on dit qu'on va créer de grandes ombrières qui vont être en bois et en métal, c'est assez inquiétant, et qui vont faire une surface de 35 mètres carrés, dont le but, c'est de faire baisser la température dans la ville. Alors, c'est un peu surprenant parce que on compare la température qui va être la température au soleil, soi-disant, et la température à l'ombre. Alors, je sais que aujourd'hui, le rapport à la science est un peu flou. Mais je me rappelle dans mon enfance, quand j'étais à l'école maternelle, il y a fort longtemps, dans mon village, eh bien, l'instituteur nous avait expliqué que la température ne pouvait être prise qu'à l'ombre. Donc, on avait un thermomètre, je me souviens, à mercure, avec les maximums et les minimums, et il était évidemment ce qu'on appelle sous-abri, et on devait le matin regarder les températures, et on faisait la courbe des températures suivant les saisons, ce qui était un exercice tout à fait intéressant. Mais il m'est resté comme l'a priori scientifique qu'on ne peut mesurer la température qu'à l'ombre, parce que le soleil va donner des températures aberrantes, puisqu'on peut avoir des températures au soleil en hiver avec le froid et dépendant uniquement de l'ensoleillement. Et ce n'est évidemment pas la température de l'air. Alors c'est assez curieux parce que la température ne peut être prise qu'à l'ombre. Donc la température qui est donnée sous les ombrières de 35 mètres carrés que Madame Hidalgo veut répandre dans Paris, bon, je vois pas très bien d'ailleurs au niveau esthétique l'effet que ça peut avoir, des immenses parapluies, l'argumentation, en tout cas, est totalement fausse, bien sûr. C'est-à-dire que si vous êtes dans votre appartement, les fenêtres ouvertes en été, ben, si vous êtes devant la fenêtre à l'ombre, la température est la même que dans la rue. Je crois que ça tombe sous le sens. Donc, tout ça est quand même un peu surprenant qu'on puisse se servir de cet argument, donc la plantation des arbres, pour faire baisser la température. Alors, il est vrai que l'évaporation de l'eau et fait baisser la température. C'est un phénomène naturel que l'on connaît depuis la nuit des temps. Les amphores, les pichets d'eau, dans mon enfance, on allait chercher de l'eau à la fontaine et avec un pichet qui était en terre poreuse, c'est-à-dire qu'il y avait la buée qui se formait et effectivement, d'une manière naturelle, on avait de l'eau fraîche. C'est un système, je pense, qui est vieux comme le monde, qui était les premiers réfrigérateurs avec l'évaporation, avec de l'eau à travers de la terre cuite poreuse. Donc, ce phénomène est un phénomène physique, on ne va pas analyser, et j'en serais d'ailleurs incapable de vous donner les formules physiques qui permettent le transfert d'énergie, mais c'est une réalité que tout le monde connaît. Alors, ce problème est un problème essentiel, puisqu'en fait, le problème de faire baisser la température avec la végétation, ça suppose surtout que la végétation est humide. Alors, il est évident que si on prend par exemple des arbres à feuilles persistantes, ce qui est quand même très agréable, il n'y a pas la masse d'eau que peut retenir des arbres à feuilles caduque et également le sol dans ce cas-là peut être un sol très sec et si le sol n'est pas humidifié ben on n'aura pas cet effet bénéfique. Par exemple dans la forêt des Landes bien il fait aussi chaud sous les en plein été, il fait aussi chaud sur la route que dans la forêt parce que il y a évidemment aucune ou quasiment aucune évaporation. Donc, simplement, comme je vous disais, l'ombre ne suffit pas puisque la température est la même. Et alors après, il y a le problème de l'accumulation de la chaleur. Alors effectivement, c'est un problème, mais l'accumulation de la chaleur, elle va être faite effectivement par le béton et par le bitume. Et effectivement, si on veut arroser de la pierre ou du béton, on aura l'effet d'évaporation. Et pour revenir à la place du Capitole, que l'on voudrait pour des raisons de rafraîchir les îlots urbains qui sont, paraît-il, vecteurs de chaleur, eh bien, on peut tout à fait mettre, par exemple, un débrumisateur. Vous savez, ces brumisateurs, on en voit dans les parcs d'attraction, on en voit sur les aires d'autoroute. Bon, il faut que ce soit de l'eau potable, parce que si c'est pas de l'eau potable, c'est vraiment le problème. Ça va diffuser des microbes, mais on a assez peu d'eau et on a un effet de refroidissement qui est fait par l'évaporation, par les gens qui passent, et l'évaporation qui va être faite sur le sol, où on aura effectivement une baisse de température qui peut être conséquente en été. Alors, le problème des îlots urbains, c'est un peu surprenant parce qu'on dit aujourd'hui, d'abord, évidemment, on en a déjà parlé que l'article de Libération commence comme ça, c'est que les trois quarts de la population mondiale va vivre dans les villes. Alors les villes sont les villes denses, des villes avec des îlots urbains. Bon, tout ça, j'en ai déjà parlé, va contre la réalité. On a au contraire dans les villes denses une perte de population qui se passe avec une migration de la population dans les villes moyennes et dans les petites villes et vers les maisons individuelles, des immeubles, des centres-villes, phénomène de Paris, mais qui est un peu près général dans toutes les villes. Donc là, on est sur de la fiction absolue. Mais pour revenir aux îlots urbains, c'est pas aussi évident que ça, parce que les villes anciennes et les villes denses, par exemple les quartiers très denses de Toulouse, la rue Saint-Rome, tout avec son dédale de rues médiévales, sont des rues qui sont avec les cours intérieures, avec notamment ce qui était le cas avant, les caves qui rafraîchissent les cours. Il y avait aussi quelques fontaines qui ajoutaient au plaisir, mais les cours étaient et sont d'ailleurs fraîches par rapport même à des surfaces qui ne sont pas, comme je vous disais, qui ne sont pas arrosées et qui peuvent être plantées. Donc l'inertie par du bâti. Alors il est certain que s'il y a des étés caniculaires qui vont durer très très longtemps, mais bon, on n'a pas eu quand même des longues périodes, on a eu des fragmentations pour arriver à faire que les cours sont chaudes elles aussi, mais on a toujours le frais de la nuit et on peut dire des phénomènes naturels comme la ventilation qui peut être faite naturellement. Je vous parlais des caves ou des cours intérieurs, mais on a des phénomènes comme celui des tours iraniennes où on avait une partie qui était haute, pas vitrée à l'époque, mais avec il y avait une plaque métallique et une pièce d'eau qui faisait que l'on avait un effet de convection et de rafraîchissement de l'air sur l'eau qui faisait baisser les températures. Donc il y a des phénomènes naturels qui existent d'ailleurs dans les villes anciennes, et on a les formes de villes anciennes que l'on peut trouver dans le sud de l'Espagne, qu'on peut trouver aussi en Algérie, la Casbah, les quartiers anciens des villes de Marrakech, etc. Donc cette histoire de îlot urbain surchauffé me paraît pas très judicieux, et les remèdes que l'on propose, notamment le fait de mettre du gazon sur des places, attendu que il faut l'arroser, et que ça peut être aussi des problématiques un jour d'orage où on va se retrouver avec de la boue dans les chaussures et des problèmes sanitaires, des problèmes très compliqués à gérer, parce que il y aura dans une densité de population importante des problèmes de déjection animale, des problèmes de saleté, tout cela est assez compliqué. Et on ne doit pas oublier que le problème dans la ville dense, dans la ville peuplée, est avant tout un problème d'hygiène et d'assainissement. Donc cette histoire de ville verte où on quitte la notion de plaisir, qui serait une notion beaucoup plus raisonnable, une question de l'esthétique, et pour arriver à des fausses contraintes qui seraient liées à une fausse analyse scientifique, comme je vous le disais, de la température à l'ombre et la température au soleil, ben je pense qu'il faudrait qu'on regarde les choses à deux fois. Voilà, bon, c'était pas très optimiste comme conclusion, mais je pense que en conclusion, il nous apparaît que une vision un peu plus scientifique peut-être, mais de bon sens, dans les domaines de l'urbanisme et de l'architecture. C'est ce que l'on peut vous souhaiter pour la nouvelle année. À la semaine prochaine. Je vous le disais, de la température à l'ombre et la température au soleil, ben je pense qu'il faudrait qu'on regarde les choses à deux fois. Voilà, bon, c'était pas très optimiste comme conclusion, mais je pense que en conclusion, il nous apparaît que une vision un peu plus scientifique peut-être, mais de bon sens, dans les domaines de l'urbanisme et de l'architecture. C'est ce que l'on peut vous souhaiter pour la nouvelle année. À la semaine prochaine.